Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Pour ce nouvel épisode, j'ai traversé la frontière pour venir en Belgique et me rendre à Bruxelles afin de rencontrer Sarah Schlitz. Bonjour Sarah.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu ?
Super Léa, je suis trop contente d'être avec toi ici à Bruxelles. Je me réjouis hyper fort de te présenter toutes mes copines féministes tout à l'heure à la Foire du Livre. Et ben super contente aussi de participer à ton podcast. Donc voilà, c'est un bon week-end qui démarre là.
Et ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Sarah, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, déjà qui tu es ? Parce qu'en France, on te connaît peut-être pas très très bien, faut dire.
Alors, donc moi je suis aujourd'hui députée fédérale pour le parti Écolo, donc ici en Belgique au niveau du Parlement fédéral. Actuellement, je suis surtout active dans la commission d'enquête sur les violences sexuelles dans l'Église, où j'amène vraiment un regard sur quelles sont en fait les pistes de solutions qu'on doit mettre en place aujourd'hui d'un point de vue structurel pour accompagner les victimes et faire en sorte d'éviter les récidives. Donc j'essaie vraiment d'amener cette lecture féministe et préventive et d'accompagnement victimologique plutôt que d'être à fond sur une vision pénale et carcérale dans la commission. Voilà, et puis alors sinon, qui je suis ? Donc moi, j'ai été secrétaire d'État à l'égalité des genres, des chances et à la diversité au sein du gouvernement fédéral de 2020 à 2023. Donc c'est la première fois que ce poste existait en Belgique. J'ai porté toute une série de législations comme la loi Stop Féminicide, l'interdiction des pratiques de conversion, le déploiement de centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Voilà, donc j'ai mené des gros chantiers comme ceux-là. Et puis alors, moi je suis aussi une militante, donc je suis active et je l'étais avant d'être en politique, mais je continue à être très active dans le milieu associatif et militant. Et c'est ça aussi mon terreau, ce qui me nourrit, m'alimente et je tâche, enfin au quotidien, je crée des ponts et je m'appuie sur le milieu associatif pour mon travail, quoi.
Donc en gros, tu viens du milieu militant et puis un beau jour, tu t'es dit « je vais faire de la politique » ou est-ce que tu as commencé par la politique ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, bon, déjà, moi je viens d'une famille assez politisée. Mon grand-père était bourgmestre de Liège pour le Parti Socialiste. Et voilà, j'ai grandi dans une culture de l'engagement, pas forcément politique, mais une culture assez, voilà, où on a envie en fait de prendre part, d'agir, de peser sur le cours des choses, quoi. J'ai étudié les sciences politiques en me disant « Ah, j'ai envie de comprendre les systèmes pour voir comment on peut le changer. » Mais pas forcément avec l'idée de me lancer dans une carrière politique. Ça, c'est plutôt venu dans un second temps quand j'ai commencé à militer sur le terrain avec les jeunes écolos. Avant ça, je me suis plutôt engagée dans le milieu associatif et militant pour la cause du vélo, l'environnement et d'autres... j'ai plutôt un profil multimilitant. Quand même avec une grosse préoccupation pour les questions à la base d'inégalité, de grande précarité, d'inégalité nord-sud, avec une colère en fait face à l'inaction politique. Donc quand j'étais ado, je me disais mais comment c'est possible en fait ? On sait qu'on pourrait résoudre la faim dans le monde, comment c'est possible qu'on ait des personnes qui dorment en rue alors qu'on est un des pays les plus riches du monde ? Et j'ai très vite lié la question environnementale à ces questions d'inégalité en me disant... Comment c'est possible qu'on laisse des entreprises polluer, détruire des écosystèmes, alors qu'en fait, on sait que ça détruit l'environnement. Il suffirait de leur dire d'arrêter. Pourquoi est-ce que les politiques ne font rien ? Donc j'avais vraiment une stupéfaction face à ces gens qui se prennent au sérieux, mais qui ne prennent pas du tout les bonnes décisions pour le collectif, alors que c'est pour ça qu'ils sont là.
Et donc du coup, ton engagement féministe, il vient d'où ?
Mais moi, j'ai commencé à me réclamer vraiment du féminisme en entrant en politique. Donc avant ça, je trouvais que c'était une cause tout à fait importante, un peu comme se dire que oui, se battre contre la pauvreté, c'est important. Mais je ne le voyais pas spécialement comme un besoin pour moi ayant un capital social, culturel important. Et il faut dire que donc moi, je suis née en 86. Et donc, je n'étais pas dans une grande vague du féminisme à l'époque. En tout cas, à Liège, ça ne vivait pas beaucoup. On était plutôt dans un mood voilà, l'égalité, on l'a. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est être des meufs fortes comme les mecs et on s'en sort comme ça, quoi. Sauf que quand j'ai été élue conseillère communale à 25 ans, donc plus jeune conseillère communale, conseillère municipale pour la France, là, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas être que moi le problème. Je me suis dit, là, il y a un système, ce n'est pas possible. Et c'est, on va dire, la première fois que j'ai vraiment conscientisé ça aussi fort. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que le parti dans lequel je suis est un parti qui fait confiance aux femmes. Enfin, le parti écolo, il est né de mouvements écologistes, mais aussi de mouvements féministes. Et donc, il y avait déjà une culture en interne de soutien, d'empowerment des femmes. Et j'ai contribué aussi à alimenter et construire de nouveaux lieux de soutien au sein d'écolo, sur base de ça, avec d'autres femmes, quoi.
Voilà. Et comment, après tout ça, donc, t'es élue au conseil, l'équivalent du conseil municipal en France, à 25 ans, donc à Liège, n'est-ce pas? Et quelques années plus tard, tu te retrouves au gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Moi, quand j'étais au conseil communal, je travaillais dans l'associatif environnemental en parallèle, parce que c'est pas du tout un vrai métier. Enfin, c'est pas un métier du tout. C'est en soirée, le week-end, qu'on exerce cette fonction-là. Et en fait, donc moi, j'avais accepté d'être candidate suppléante lors des élections fédérales, mais vraiment en mode soutien, comme ça. Et en fait, la députée a démissionné. Et donc, je suis montée comme députée en 2018, fin de législature. Je me suis dit, bon, en fait, j'y vais, quoi. Je vais aller voir ce que ça raconte. Est-ce que ça m'intéresse comme levier? C'est pas du tout quelque chose que j'envisageais. Moi, j'étais plutôt motivée par le niveau local et de continuer. En plus, à ce moment-là, pour être honnête, j'hésitais entre me reconsacrer à 100% à l'associatif et militant ou bien à pousser plus loin mon engagement. Mais voilà, j'étais un peu dans des questionnements. Et puis là, il y a ça qui se passe. Je m'y attends pas du tout. Je me dis, bon, allez, j'y vais. Je vais aller voir. C'est une expérience à prendre. Et puis, je verrai si j'arrive à peser, quoi. Et là, c'est le moment des grandes marches pour le climat avec les jeunes qui sèchent les cours, qui font des manifs tous les jeudis. Et moi, je suis parlementaire qui suit les matières climat. Et en fait, je m'éclate parce que je crée des ponts, je dépose une loi climat. On mène le combat au Parlement, on est dans la rue. Et donc, c'est hyper chouette d'avoir cette articulation-là. Et moi-même, je me sens très proche aussi de tous ces jeunes. Et du coup, je sens aussi une vague qui me porte avec une forme d'espoir que j'incarne pour eux, d'avoir enfin quelqu'un qui porte les bonnes solutions dans le Parlement, quoi. Et donc, du coup, je me représente aux élections 2019. Je suis réélue comme députée fédérale. Et là, moi, je m'empare des questions féministes. Parce qu'en fait, au Parlement fédéral, il n'y a pas une vraie commission qui travaille sur les questions de droits des femmes. C'est dispersé en transversal, donc en commission affaires sociales, on travaille parfois, rarement, sur l'égalité salariale, les quotas. Donc c'est réparti. Et donc moi, je me dis, je vais enfiler cette casquette, de faire le tour de toutes les commissions et d'aller, en parallèle du travail que mes collègues mènent en justice, en intérieur, etc., sur leur sujet, moi, je vais venir ramener une couche de gender mainstreaming, en fait, de lecture de genre. Et donc, je fais ça, je commence comme ça. Et en fait, ça prend bien. Il y a de plus en plus de collectifs féministes avec lesquels je travaille, dont je porte les revendications. Et ça fait monter à l'agenda les questions féministes. Et puis, la crise sanitaire éclate. Et là, par contre, je commence à me consacrer uniquement aux questions de violence de genre, avec l'explosion des violences en intrafamiliales, ramener des publics des marges vers le centre, qui étaient souvent oubliés des mesures globales qu'on prenait, par exemple les couples homosexuels auxquels on n'avait pas pensé quand on avait défini qu'on pouvait se tenir la main dans la rue ou pas en fonction de si on était un couple ou des amis, ils n'avaient pas envisagé qu'il fallait pas coller une amende à deux gars qui se tiennent la main en rue, tous des trucs comme ça. Et donc je commence à porter ça, et en fait c'est hyper dur parce que je suis face à au précédent gouvernement qui était un gouvernement de droite dure et qui à des profils assez âgés au niveau des ministres qui sont en place, et ils en ont vraiment mais rien à faire, quoi. Donc c'est des trucs du genre, par exemple, j'avais une fois interpellé le ministre de la Justice sur le fait que les jeunes femmes avocates quittent très tôt la profession, et il a commencé à me donner cours, quoi, à me faire du mansplaining à fond, et en me disant « Soyez patiente, Madame Schlitz, l'égalité est en train d'arriver », comme si c'était un phénomène naturel, c'est bien connu. Et donc c'était comme ça, quoi. Donc c'était dur, c'était l'adversité, mais après, moi, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur, donc voilà, je continuais comme ça. Et puis donc, avec la pandémie, je porte les questions de violence, en intérieur, en justice, en santé, c'est compliqué. Très peu de répondants, voilà, on est à la limite de la moquerie, quoi, quand même. Et puis en fait, quand le gouvernement, le nouveau gouvernement se forme, parce qu'en Belgique, bon, on prend un peu de temps, donc en fait, on laisse passer quasiment un an et demi avant d'avoir un gouvernement. Quand le gouvernement se forme, les Verts montent dans le gouvernement. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait plus été dans un gouvernement. Et une des grandes priorités affichées, c'est le climat, mais aussi l'égalité homme-femme et la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, Écolo obtient le ministère de l'égalité. Et là, les militants de mon parti me désignent comme secrétaire d'État. Mais ça va très vite. Donc moi, je me rends simplement à l'Assemblée Générale avec tous les militants pour aller désigner nos ministres. Et je sors de là 4 heures plus tard en ministre. Étant moi-même désigné, quoi. Donc voilà, j'ai appelé mes potes en disant « Il s'est peut-être passé un truc. » Et voilà, et le lendemain, j'étais...
Et tu l'avais pas du tout anticipé ?
Pas du tout.
Mais vraiment ?
Pas du tout.
Okay, genre tu te disais pas...
Non. Vraiment pas. Parce
mais comment
que...
ça se passe ? Il y avait des gens qui étaient shortlistés, des noms qui étaient proposés aux militants.
Déjà,
et militants
nous, on
ne
pensait pas en avoir 3. On pensait avoir 2 ministères et pas 3. Donc, et en fait, la répartition des postes se passe vraiment à la toute fin des négociations. Donc les 7 parties, donc là, on est un gouvernement à 7 parties,
wow.
Négocient pendant des mois et des mois. Donc, et c'est à la toute fin qu'on décide qui prend quoi. En fait, c'est pour éviter que certains, donc par exemple, tu aurais... dans ton portefeuille l'intérieur ou la justice, bah du coup si tu sais que c'est toi qui l'as, tu vas pousser à fond pour avoir des budgets et tu vas pas réfléchir à la globalité du projet, quoi. Donc c'est pour essayer d'éviter que des jeux politiques de ce type là s'immiscent dès le début dans les négos. Et donc en fait, quand nos coprésidents reviennent de la dernière négociation de répartition des postes, nous on pense qu'on en a que 2. Tous les militants pensent ça, quoi. Et là ils nous annoncent, bah en fait nous on en a 3. Et là, il y a plein de militants qui prennent la parole en disant « En fait, nous, on trouverait ça super que ce soit Sarah qui y aille avec tout le boulot que j'avais mené. » Et ça passe à quasi-unanimité, quoi.
Wow.
Voilà. Ouais.
Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ?
Bah, c'est,
tu t'es dit « Il faut que j'y aille, quoi. »
Bah, d'abord, la première chose que je me suis dit, c'est...
Est-ce que tu as pu te poser la question de savoir est-ce que j'y vais ou
ouais,
pas ?
Ouais, quand
même.
Ouais, ouais. Parce que en fait, mon nom a commencé à sortir dans les discussions. Et là, je me suis dit... Il faut d'abord, la première chose que j'ai fait, c'est vérifier qu'il y avait des leviers d'action dans l'accord de majorité. Parce que je me suis dit, moi, je ne vais pas aller faire de la figuration et servir d'alibi pendant 4 ans d'un gouvernement qui n'a pas envie d'avancer. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des brèches dans lesquelles il y avait moyen de s'engouffrer et aussi des éléments structurants. Donc, par exemple, le fait qu'il était inscrit dans l'accord de majorité, la reconnaissance des inégalités structurelles et historiques entre les hommes et les femmes et la volonté de lutter contre. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais en fait c'est ça qui me, c'est un des leviers sur lesquels j'ai pu actionner pendant tout mon temps au gouvernement. Il faut rappeler, les amis, on s'est engagé à ça, et donc il nous faut un bilan. Sinon ça veut dire qu'on n'a pas fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, et donc c'est de nouveau les politiques qui respectent pas leurs paroles. Pareil, la volonté de lutter contre les violences faites aux femmes, avec la Convention d'Istanbul comme boussole. Ça, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, la Convention d'Istanbul, c'est un texte qu'on a ratifié, mais qui a du mal à s'imposer comme un texte, alors que c'est un texte qui est contraignant, un rare texte qui est contraignant. Et là, il est écrit dans l'accord de majorité qu'on va le respecter, quoi. Donc là, c'est des leviers importants pour avancer. Et là, je me dis, OK, en fait, on est parti, quoi. Voilà.
Et donc, du coup, tu te lances 2020, et puis 2023, tu finis par démissionner.
Alors, ouais. Il y a quelques mois, j'ai décidé de démissionner suite à une série d'attaques de partis nationalistes. En fait, moi, tout du long de mon mandat, évidemment, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, quoi. Je le savais d'emblée, mais tout le système, enfin en tout cas la façon dont on est traité par certains journalistes, par certains politiques, vise à toujours nous faire sentir pas à notre place, à nous envoyer le message que ce qu'on fait est à côté de la plaque et à nous décrédibiliser. Et donc, en fait, il faut tout le temps doser, quand on agit, entre courage politique, risque politique, donc il faut tout le temps mesurer le niveau de danger, anticiper les risques, et surtout, moi, ma préoccupation constante, c'était, est-ce que je vais, en le faisant, renforcer les droits des personnes concernées, ou est-ce que je vais leur desservir ? Et donc ça, c'est toujours un équilibre qu'il faut arriver à trouver. J'estime avoir été le plus loin que je pouvais dans cet exercice. Et c'est vrai que le jour où j'ai décidé de démissionner, j'ai une pote qui m'a dit, mais en fait, Sarah, t'as tenu 3 ans, quoi. T'imagines ? Enfin, avec tout ce que t'as traversé, c'est déjà énorme. Et en fait, c'est vrai. Parce que quand je vois toutes les épreuves qu'on a traversées, qu'on a surmontées, tous les combats qu'on a menés, alors que c'était pas des vents favorables, j'ai estimé que pour la cause et pour les personnes concernées, j'étais arrivé au bout de ma mission et que je pouvais être utile en étant à un autre endroit. Voilà. Mais moi, n'étais pas dans une optique de m'accrocher pour m'accrocher, quitte à perdre des batailles sur le fond.
Ouais. Voilà. Ah ouais, je comprends. D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, t'es militante, t'es pas que élue.
Bien sûr. Aujourd'hui, c'est les choses qui m'ont été reprochées.
D'accord.
Donc certains journalistes masculins qui ont fait des chroniques sur moi en disant est-ce qu'on peut vraiment être militante et politique ? Il est peut-être temps qu'elle retourne comme militante. Des choses comme ça qui ont été dites, alors qu'en fait c'est des choses qu'on n'entend jamais sur les mecs de droite, anti-immigration. Alors qu'en fait c'est pour moi les plus grands militants que je connaisse, quoi. Dire, ils sont super attachés à leurs idées, ils vont même en manif. En Flandre contre la création de nouveaux centres d'accueil et des choses comme ça. Donc, mais ça, on dit rien, quoi. Donc ça, évidemment, y a des traitements médiatiques de ce type-là qui sont vraiment problématiques, parce qu'en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est pas juste pour moi, c'est aussi le signal qu'on envoie. C'est de dire, d'envoyer le message aux militants, en fait, votre place, elle n'est pas en politique. Restez bien là où vous êtes. Et d'ailleurs, si vous entrez en politique, regardez comment on va vous traiter. Et ça, c'est une des choses qui m'a fait peur aussi dans... Les choses que j'ai subies, c'est de me dire, est-ce que ça ne va pas décourager des profils différents, qui ne correspondent pas à ce qu'on connaît d'habitude en politique, de se lancer. Donc ça a toujours été ma crainte aussi, quoi, que ça dégoûte, que ça éloigne. Et ce qui, moi, m'a vraiment le plus touché, je crois, dans toute cette aventure incroyable, c'est des gens qui, après ça, sont venus me trouver en disant, on est avec toi et en fait, nous, on a envie de s'engager. Et ça, j'y croyais pas, quoi. Je disais, mais c'est fou que... Ça donne envie, en fait, de venir se battre avec moi, plutôt que de se dire, oh là là, on va pas toucher à ça.
Ouais, ça a eu un effet enthousiasmant à l'inverse d'un effet repoussoir, en fait.
Bah, et c'est le moteur de l'injustice, quoi. Aussi, les gens se disent, mais en fait, on peut pas laisser les choses comme ça, quoi. Et donc, ça, c'est une belle leçon à laquelle je m'attendais pas. Et eux non plus, à mon avis.
Ouais, c'est vrai, parce que du coup, ça a renforcé.
Ouais.
Ça t'a renforcé, toi, puisque t'es encore là. Alors t'es plus ministre certes, mais t'es toujours active en politique. Et puis là, si je me trompe pas, t'es en campagne.
Oui, c'est ça. Et donc tout le soutien. Donc moi, j'ai eu énormément de soutien de mon secteur. Toutes les associations, toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ont salué unanimement mon action. Et donc ça, c'est un truc waouh. Mais en fait, ouais. Moi, c'est la plus belle des victoires, en fait. Enfin, et ça les a rendus fous, quoi. Quand ils voyaient le soutien que j'avais, c'était dingue. Et en fait, au lendemain de ma démission, le parti qui m'a attaqué tout du long, donc c'est un parti nationaliste flamand, a communiqué en disant « Non, mais en fait, il ne faut pas la remplacer. Ce secrétariat d'État ne sert à rien. Ne la remplacez juste pas, quoi. » Et donc ça, c'est... Enfin, ça montre aussi le schéma dans lequel ils sont. Et en fait, on le sait, quoi. On sait que les politiques d'égalité, c'est ça qui leur fait peur. Ils n'en veulent pas et ils cachent de moins en moins leur jeu. Donc c'est ça aussi qui est très inquiétant, quoi. Aujourd'hui, c'est des partis qui font campagne contre les politiques antiracistes, qui prétendent partout que les inégalités hommes-femmes, c'est derrière nous. Voilà, et donc c'est un contexte politique qui est inquiétant aujourd'hui en Flandre, au regard de l'enjeu électoral qui nous attend pour le 9 juin. Donc nous, on vote pour les européennes, mais en même temps, on vote pour les fédérales et les régionales. Donc, énorme rebattage de cartes ici dans 2 mois.
Vote est obligatoire en Belgique.
Et le vote est obligatoire. Mais ça, moi, je suis vraiment très favorable à ça. Donc, tant mieux. Et donc, je suis tête de liste pour les prochaines élections, pour le fédéral, pour la circonscription de la province de Liège. Voilà.
Bah, bon courage pour cette campagne. Du coup, on voit quand même que tu as un parcours politique assez riche, assez diversifié, parce que tu as occupé des postes au niveau local, tu as occupé des postes au niveau législatif, au niveau national, enfin fédéral, et puis aussi côté exécutif. De tous ces postes que tu as pu occuper, tous ces mandats que tu as pu avoir et que tu as encore aujourd'hui, quel est l'endroit où tu as eu l'impression que tu pouvais véritablement faire changer les choses ?
Bah, au gouvernement, clairement, là, il y avait des vrais leviers, quoi. C'est des choses qu'on ne fait pas toutes seules. C'est une équipe, c'est une société civile organisée qui a vraiment porté les projets, qui était en soutien, avec qui on a vraiment super bien pu travailler. Et ça, voilà, c'est clair qu'arriver à s'aligner pour se dire, OK, en fait, là, on a une fenêtre d'opportunité qui ne se représentera peut-être pas avant des années et il faut tout donner pour arracher ces victoires. Mais let's go, quoi. Enfin, ça, clairement, c'est la période où j'ai eu le sentiment de pouvoir le plus peser. Et en fait, ça m'a aussi appris un grand secret bien gardé. C'est que non, en fait, la politique, ce n'est pas forcément de l'inertie. Ce n'est pas forcément de la lenteur. Et ça montre que quand on est déterminé, qu'on a vraiment envie de faire bouger les lignes, qu'on s'en donne les moyens, qu'on est à l'écoute des gens, qu'on porte les combats qui nous rapportent, eh ben en fait, ça peut changer. Et pas si lentement que ça, en fait. Là, quand je vois tout ce qu'on a réussi à abattre comme boulot avec la plus petite équipe du gouvernement, quand même, hein, c'est énorme, quoi. Et c'est salué par plein d'observateurs qui disent, le secrétariat d'État qui a, parmi tous les ministères en fait, actuels, celui qui a rempli son contrat, hein, qui a été le plus loin dans l'exécution de tout ce qui lui revenait à faire dans l'accord de majorité, c'est le secrétariat d'État à l'égalité des genres et des chances. Voilà.
Ouais, donc c'est quand même pas... C'est pas rien, quoi. C'est clairement pas anodin. Comment tu pourrais décrire le mouvement féministe belge pour les Françaises et Français et autres qui nous écoutent, qui connaissent pas trop la Belgique ?
Alors, le mouvement féministe... je vais plutôt parler du mouvement féministe francophone. Il y a un peu deux paysages militants en Belgique. C'est un mouvement qui est très mature, donc avec des grosses organisations qui existent depuis des années, avec beaucoup d'expertise et beaucoup d'expertise de terrain, mais aussi une expertise du vécu qui permet d'être bien connecté avec l'histoire des luttes et d'avoir beaucoup de documentation, beaucoup de background sur l'état de la situation. On a beaucoup de personnalités historiques. Alors, ce n'est pas un mouvement. En Belgique, on est un peu moins qu'en France avec des grandes figures. On a moins des grands noms qui se détachent. On a plutôt un fonctionnement, on va dire, plus collectif, plus en réseau, mais qui, je trouve, produit beaucoup de résultats, assez connecté avec le politique dans le sens.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Essentiellement de avoir une agilité pour porter des sujets à l'agenda, obtenir des victoires. Et puis alors, on a une nouvelle vague féministe, très militante, assez jeune, organisée. Il y a un bouillonnement féministe en ce moment depuis quelques années. Donc ça, c'est hyper chouette aussi, quoi. Enfin, avec les colleuses, mais aussi plein de sortes de collectifs. C'est un mouvement qui est fort inclusif sur toutes les questions d'antiracisme, les personnes trans aussi. Donc ça, c'est, je trouve, une fierté qu'on peut avoir ici en Belgique, c'est qu'on est un mouvement qui est fort uni sur toutes ces questions-là, quoi. Voilà.
C'est assez intéressant, ça, d'avoir un peu de perspective. Non, c'est chouette. Ouais, J'aime beaucoup l'aspect collectif, en fait, qui repose pas forcément sur des noms, des grandes figures, mais qui est vraiment plus un féminisme... une toile en fait, et du collectif et du local. Ça me parle énormément. Je trouve ça vraiment super chouette. Lorsque tu as été nommée au secrétariat d'État, tu as commencé, de ce que je comprends, de ce que tu décrivais aussi tout à l'heure, à bosser direct avec des associations, parce que c'est un peu ton terreau à toi, le terreau militant. Et effectivement, tout ce qui est produit par la société civile est assez important pour orienter les politiques publiques. Est-ce que c'était nouveau pour les associations, ou est-ce que c'est déjà quelque chose que les ministres précédentes faisaient, ou est-ce que les assos se sont dit « Ah bah tiens, enfin quelqu'un avec qui on peut vraiment bosser ?»
Alors, donc déjà, la particularité de mon secrétariat d'État, c'est que, en fait, moi, le lendemain du jour où j'ai été nommée, j'ai commencé à recevoir des tas de CV de gens qui travaillaient dans l'associatif et qui se disaient « En fait, là, j'ai envie de participer à cette aventure, quoi. » Et c'est des gens qui me disaient, moi, en fait, j'avais jamais pensé à entrer en politique, mais je sens qu'on peut faire un truc. Et donc, c'était super enthousiasmant, quoi, de voir ça. Et donc, en fait, il faut, en très peu de temps, construire une équipe. Et on a déjà, par exemple, une note de politique générale. Donc, c'est un document qui montre ce qu'on va mettre en place pendant les 4 ans de législature. On doit écrire ça en quelques semaines, alors qu'on n'a rien, quoi. On n'a pas d'équipe, donc il faut la monter petit à petit, il faut recruter, enfin voilà, donc c'est un gros bordel. Mais en même temps, c'est des moments très exaltants, quoi, où du coup, très vite, on a rejoint par exemple mon équipe, Afida Bachir, donc elle, c'est vraiment une figure du féminisme en Belgique, qui a été directrice de Vie Féminine pendant 30 ans, enfin, elle a travaillé chez Vie Féminine pendant 30 ans, elle a été directrice générale, et elle m'a dit, en fait, moi... j'ai envie de finir ma carrière en franchissant le pas de la politique, quoi. Et de venir porter ce qu'elle a vu sur le terrain, ce qu'elle a porté en tant que directrice générale au niveau du gouvernement. Et donc elle a travaillé énormément sur les questions de violence, lutte contre les violences de genre au sein du cabinet. Ma responsable sur les questions de LGBTQIA+, était conseillère politique au sein d'une coupole LGBT au niveau de Bruxelles. Enfin, voilà, donc c'est tous des gens comme ça qui ont rejoint l'équipe. Et la réflexion que je me suis souvent fait, c'est que avoir des profils militants qui viennent du terrain, en fait, détiennent des compétences, voire plus de compétences, pour mener des fonctions de type les membres de cabinet, qu'une personne qui serait dans le sérail depuis plusieurs années, quoi. Alors, il faut un équilibre. Et dans mon cabinet, il y avait aussi des personnes qui avaient déjà eu une expérience en cabinet avant. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir que c'est des gens qui ont des réflexes, notamment de mise en réseau, de consulter, d'aller chercher l'info, qui se fait très, très facilement et qui sont des compétences hyper nécessaires pour mener, en fait, ces dossiers-là dans un gouvernement, quoi. Et pareil, au niveau de mettre en place des stratégies... quand on sent qu'un dossier commence à bloquer, c'est des personnes qui ont des réflexes différents de ceux d'une personne qui serait uniquement avec une expérience de l'inside, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup sur toutes les ressources qu'on peut avoir en soi en tant que militant pour en fait exercer des missions auxquelles on ne s'attend pas forcément. Et puis alors, rappelle-moi ta question.
Non, mais j'en ai encore, ouais. Hein, t'inquiète, j'en ai tout un paquet. Toujours sur cette prise de fonction et sur la mise en place de ton cabinet. Si mes informations sont bonnes, si je suis bien informée en tant que journaliste, lorsque tu as constitué ton cabinet, tu as été attentive à ce qu'il soit le plus diversifié possible, avec une parité, avec aussi des personnes racisées. Tu as été très attentive à donner de la place à tout le monde, en quelque sorte. Ça, j'imagine que c'est quelque chose qui a été important à mettre en place pour toi. C'est vraisemblablement, ça découle de ton engagement, donc c'est très cohérent. Mais ensuite, dans la gestion de ton cabinet au quotidien et de ton équipe, est-ce que tu as réussi à faire ce qu'on pourrait dire du lead féministe, du management féministe? Je veux dire, quand tu es ministre et que tu es féministe toi-même, comment tu gères une équipe?
Oui, bien sûr. Alors, pour moi, c'était super important d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Et donc, voilà, comme je le disais tantôt, Umaima, qui venait de la Rainbow House, c'était pour moi la meilleure personne pour porter ces dossiers, qui avait tout son carnet d'adresses, toute son voilà, toute sa vision stratégique et des combats LGBT, de ce qu'on pourrait obtenir. Donc voilà, avoir à chaque fois les bonnes personnes qui suivaient les dossiers. Alors, bah donc moi, comme je te le disais tantôt, ils se sont quand même dit qu'il n'y avait quand même pas besoin de donner plus de moyens à l'égalité des genres et des chances qu'à l'autre secrétaire d'État qui a le plan de relance, par exemple. Donc moi, j'avais le plus petit cabinet. Ça, c'est pas facile, quoi. Parce que ça veut dire que...
De tout le gouvernement.
Oui. Donc ça veut dire que tu as déjà une partie de tes postes qui part sur les dimensions plus admin... Voilà, t'as pas le choix.
Ouais, tout ce qui est chef de cabinet.
Oui, bah ça, du coup, chef de cabinet. Voilà, ma chef de cabinet, c'était une machine. Elle faisait aussi bien des missions de conseillère en allant directement, elle, aux intercabinets qu'en leadant l'équipe, quoi. Donc ça, c'est un poste hyper précieux. Mais par exemple, moi, j'ai refusé d'avoir une voiture et un chauffeur parce qu'en fait, bon, déjà, je trouve que ça ne sert à rien d'avoir un chauffeur qui vient me chercher chez moi alors que j'habite à côté d'une gare et que je viens travailler à Bruxelles à côté d'une gare. Ça n'avait pas de sens pour moi. Mais surtout, ne pas avoir de chauffeur, bah, ça veut dire avoir un poste de conseiller ou conseillère politique en plus dans l'équipe. Ah bah oui, parce que c'est, en fait, t'as un pot. C'est une enveloppe fermée, quoi.
D'accord.
Donc ça a été mon choix en me disant, bah non, le plus utile pour arracher le plus de victoires politiques, c'est ça. C'est pas de me trimballer partout avec un chauffeur aux quatre coins de la Belgique. Enfin, ça, je le fais en train, c'est super. Mais voilà, donc ça, c'est des choix que j'ai posés, que j'ai décidé de poser. Alors horizontalité, bah en fait on a eu beaucoup de débats. C'était un cabinet très horizontal. Maintenant, à un moment, il y a quand même une personne qui assume les responsabilités. Et ça, ben c'est pas rien non plus.
Et les conséquences.
Et les conséquences, voilà. Et donc ça, c'est la logique et la façon dont ça fonctionne. Alors on pourrait remettre ça en question, se dire pourquoi est-ce qu'en fait finalement ça doit être une personne qui est le visage de tout. Alors qu'en fait, c'est d'autres personnes qui contribuent au travail. C'est un travail super collectif, en fait, qu'on mène. Mais dans la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, ben, c'est la ministre secrétaire d'État qui assume les conséquences. Et d'ailleurs, voilà, ma démission, c'est aussi le fait... Moi, je n'ai pas voulu me dire « Ah non, je vais virer une personne du cabinet et dire que c'est de sa faute. » Voilà, j'ai assumé. Je dis « Voilà, moi, je ne vais pas commencer à jouer à ça. » C'est des gens que j'estime, dont je sais que tout le monde a fait son boulot de la meilleure manière qu'il pensait le faire. Et donc, voilà, c'est aussi ça la dimension de responsabilité politique, quoi. Tu vois. Mais c'est des questions... oui, c'est questionnant, hein, parce qu'en fait, c'est des structures qui sont pensées pour être hyper pyramidales. Et donc, quand tu veux travailler de façon plus horizontale, c'est pas facile. Mais on a toujours essayé, en tout cas, de le faire au maximum et de trouver des manières de réinventer un peu la façon dont ça fonctionnait. Voilà.
Ouais. Et disons que maintenant, tu as cette expérience de 3 ans dans un gouvernement important, hein, un gouvernement quand même de la Belgique, qui est un pays clé, notamment dans l'Union européenne. Quel est ton regard sur la situation en France à la fois sur le féminisme porté par notre actuel ministre en charge de l'égalité et sur le mouvement féministe français.
Alors, moi, ce que je dois dire en premier, c'est que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler avec Isabelle Rome, que j'ai vu beaucoup dans beaucoup d'événements. Alors, c'est marrant parce qu'elle et moi, on a quitté le gouvernement en même temps. Et donc, moi, j'étais vue comme trop militante, trop remuante, trop grande gueule. Et elle, on disait tout l'inverse, quoi. Et donc, en fait, on est toujours trop ou trop peu, mais voilà. Et donc, oui, Isabelle, c'est vraiment quelqu'un que j'affectionnais particulièrement. Enfin, que j'affectionne toujours, d'ailleurs. On est restés en contact. Et voilà, on a aussi pu partager un peu nos expériences du fait que moi, je suis dans un gouvernement de coalition. Du coup, je peux montrer les batailles que je mène à l'extérieur, quoi. Dans la presse, je peux dire on a un désaccord. Et je peux dire, moi, je me bats pour ça. Mon collègue du mouvement libéral, il est pour autre chose. Et donc, on ne sait pas si on va arriver à obtenir ce que moi, j'aimerais bien. Mais... Alors qu'elle, dans un gouvernement, dans un système majoritaire, elle dépend directement, son sort dépend directement du Premier ministre. Et donc, elle ne peut pas commencer à visibiliser les combats. Et donc ça, c'est des choses dont on a déjà parlé, par exemple au sujet de l'inscription du consentement dans le code pénal, où nous, on l'a fait dès le début de la législature, c'est passé tout seul. Alors que pour elle, c'était un combat qu'elle souhaitait mener, mais c'était compliqué. Et en plus, elle ne pouvait pas le visibiliser, quoi. Donc voilà, ça, c'est plutôt pour les points positifs. pour les points plus compliqués, ben, en fait, nous...
Qu'est-ce que tu penses de notre nouvelle ministre, du coup ?
Bah, alors, du coup, on n'a pas encore vu grand-chose. Mmh. Ça, clairement... voilà, je vois des attaques sur les questions trans. Je trouve que c'est vraiment problématique. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, en Belgique francophone, on est très influencé, enfin, on subit pas mal d'influence de la France, quoi. Et donc, voilà, quand il y a...
Pour le meilleur comme pour le pire ?
Bah, plus le pire, malheureusement. Alors... Parce qu'en fait, c'est... Enfin, là, par exemple, il y a eu le vote sur les PFAS hier. Donc, on essaye, nous, de dire « Ah, la France l'a fait, on pourrait le faire aussi ». Mais en fait, c'est plutôt les conservateurs qui s'amusent à importer les polémiques de France dans le contexte politique belge. Et donc, en particulier, des mecs...
Désolé.
Si vous pouviez vous abstenir. Et donc, des mecs de la NVA, donc le Parti Nationaliste Flamand, qui importent des débats sur le port du foulard. Quand il y a eu toute l'histoire sur la baïa, on se les coltinait aussi. Enfin, voilà, donc... super. Voilà, donc c'est un peu ça pour nous qui est, je trouve, la difficulté, quoi.
Ouais, donc vous avez peur des répercussions de positionnement d'Aurore Berger
complètement.
Jusqu'ici, en fait.
Ouais, complètement. Oh. Nous, ça nous inquiète parce qu'on sait qu'il y a tout le temps des stratégies d'import des polémiques, quoi.
Ah ouais. Et du coup, sortons du gouvernement un peu. Hein. Je pense qu'on en a suffisamment parlé, notamment français. comment tu perçois le mouvement féministe français et quelles seraient, d'après toi, peut-être les principales différences avec ce que tu connais en Belgique ?
Alors, bah donc moi, je trouve que c'est un mouvement qui est fort, qui a vraiment des figures importantes qui osent aller prendre leur place sur les plateaux, télé... Et dans les vrais médias, et ça, je trouve que c'est important et qu'on devrait davantage le faire du côté francophone. D'ailleurs, j'essaye de motiver des compagnons de lutte à oser s'imposer sur les plateaux, à essayer de les pousser dans les débats, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait peu. Et donc, c'est un peu le revers de la médaille du côté très collectif, c'est qu'on ne fait pas beaucoup dépasser les têtes. Or, je pense qu'on a besoin aussi, dans des mouvements comme ceux-là, d'avoir des figures fortes. Voilà, c'est naturel. Alors, y a la division qui apparaît quand même fort chez nous. Alors, peut-être que tu me diras que c'est plus mis en exergue dans les médias que ce que ça n'est. Mais voilà, toutes les divisions sur les questions...
Universalisme.
Universaliste. Donc ça apparaît fort, en tout cas pour nous, dans votre paysage, quoi.
Des divisions qui arrivent parfois à être dépassées sur des combats bien précis.
Okay.
Tu vois, par exemple, je pense à l'IVG dans la Constitution.
Ouais. Oh, oui, bah, c'est ça.
Il y a une sorte de compromis, avec des associations qui a priori ont moins l'habitude de travailler ensemble. J'ai vu ça aussi pour la grève féministe. Il y a eu une coordination qui a été faite mais c'est vrai que ça reste excessivement problématique.
Oui, mais alors à côté de ça, voilà, je trouve que c'est aussi le mouvement féministe français arrive à faire émerger des thématiques comme par exemple le MeToo politique. C'est vraiment du super bon boulot, quoi, et ça, c'est utile pour nous aussi. Plus globalement, il y a des figures comme Alice Coffin qui font énormément de boulot de réseautage, de mise en contact de féministes un peu partout en Europe et même dans le monde. Et ça, bah, vraiment, énorme merci. Et moi, je travaille pas mal à ça aussi pour le moment avec Alice. Et je suis sûr qu'on doit continuer dans cette voie-là dans les prochaines années. Ça doit être un de nos objectifs, de renforcer les liens entre militantes féministes au niveau international, quoi.
Ah là, c'est clair, tu prêches une convaincue, comme on dit. Il nous reste encore quelques minutes, Sarah, et j'avais une question à te poser. Une question que j'aime bien poser à mes invités sur ce podcast. Est-ce que tu pourrais me définir le féminisme ? C'est toujours le moment où tout le monde est là.
Bah, pour moi, le féminisme, c'est la puissance et c'est de la fierté, en fait. Je trouve que... Moi, c'est ça que... Ça m'inspire en premier, quoi. Et je vois bien quand... Je suis allée à la manif du 8 mars avec toute une série de jeunes militantes qui commencent à s'engager en politique en vue des prochaines élections. Et pour certaines, c'était leur première manif. Et je les voyais, mais elles étaient fortes. Et elles étaient en colère. Et elles étaient... Waouh, quoi. Et elles étaient tellement contente d'être venue à ce moment de mobilisation collective, d'enthousiasme. Ça, c'est vraiment... voilà, ça me donne des frissons, quoi, de voir ça, quoi. Donc, voilà, j'ai envie de te le définir comme ça pour pas te donner une définition bateau. Non,
on va dire une force collective.
Oui, à fond. C'est, ouais. Pour moi, c'est le collectif, clairement. C'est reprendre du pouvoir, quoi, ensemble. Mmh. Et c'est... justement, comprendre qu'on a plus à gagner en étant alliés et en se soutenant qu'en étant divisés et en jouant dans le jeu de ceux qui veulent nous diviser pour maintenir leurs privilèges. Et donc, pour moi, c'est ça le féminisme, quoi. C'est toute cette force. Et quand on arrive à diffuser cette prise de conscience-là de façon large, waouh, mais c'est génial, quoi. Moi, je vois bien, quand j'arrive dans des milieux où voilà, c'est un peu dur, et puis je vois une femme, la réaction qu'elle a, tac, tac, les bons réflexes. Et là, directement, ça change le game de toute la réunion, de tout le moment qui est en train de se passer, quoi. Et ça, plus on est à avoir ces codes-là et à se reconnaître entre nous, ben plus on avance et plus on arrive à ce que ça change, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis enfin, pour finir quand même, parce qu'on est à un moment, on est à quelques semaines d'élections très importantes au sein de l'Union européenne, mais pas que, hein, aussi en Belgique. Toi, tu es en campagne pour ta réélection, si je ne dis pas de bêtises, ouais, au Parlement fédéral. Ouais. Comment tu vois les choses venir là ? Qu'est-ce que ça donne niveau sondage, etc. Est-ce que par exemple, comme en France, le parti extrême droite est favori pour les élections européennes ou pas ?
Alors nous, on a un paysage politique super morcelé. Donc du côté flamand, ça vote, enfin le vote pour l'extrême droite est de plus en plus fort. Donc depuis que déjà, allez, plusieurs décennies en fait, il y a plus de votes à droite et à la droite extrême. Et en fait, là, on assiste à un glissement. Aux dernières élections, ils étaient passés de 2 à 17 sièges. Et là, on les annonce premier parti en Flandre, quoi.
Ah ouais.
Donc le parti d'extrême droite et le parti de droite extrême ensemble ont quasiment 50% et donc pourraient presque former un gouvernement en Flandre de droite radicale, quoi. Donc ça, c'est le truc vraiment très inquiétant. Ils sont en train de faire campagne à fond sur les questions d'égalité, anti-égalité. Donc ils dépensent un fric dingue dans des campagnes de sponsoring sur les réseaux sociaux pour diffuser des propos racistes, anti-féministe, etc. Donc c'est anti-LGBT aussi, donc la totale. Et moi, je constate un échec dans le chef des partis traditionnels d'arriver à avoir une bonne réponse par rapport à ça. Clairement, il n'y a pas eu les réponses adéquates quand il aurait fallu. Et là, je trouve que les partis traditionnels flamands ne sont pas à la hauteur, quoi. Ils continuent à, du coup... courir après eux en tenant des propos un peu moins graves sur l'immigration, mais quand même problématiques. Enfin, voilà, et donc il n'y a pas...
Comme en France, quoi, en fait.
Voilà, et donc ça, c'est dramatique, quoi. Moi, je n'ai pas la solution, mais là, je vois que c'est la fuite en avant. Et alors, du coup, du côté francophone, nous, on est dans une situation où 80% de la population vote à gauche, quoi. Enfin, gauche, centre et gauche. Ah ouais. Donc, il y a un parti de droite qui, là...
Ouais, donc c'est très polarisé, quoi.
Ah bah oui. C'est le grand écart total. Donc, on a un parti de droite qui fait environ 20% dans les sondages. Et puis, parti socialiste, écologiste. Il y a un parti centriste catholique qui fait aux alentours de 10%. Et puis, il y a le parti communiste, donc le PTB, qui là est en train de monter hyper fort dans les sondages et qui, eux, ont la stratégie de l'opposition. Donc de rester dans l'opposition, dans les parlements, dans les conseils communaux, pour mettre la pression, mais qui du coup, voilà, la difficulté, même si voilà, c'est une stratégie que je peux comprendre, a pour effet qu'on est forcé de monter avec la droite. Donc ça rend la droite incontournable, si tu veux. Donc c'est un peu la difficulté dans laquelle on est. Il y a des tentatives de petits partis d'extrême droite qui essaient de se former, mais ça, un peu comme à chaque élection, jusqu'à maintenant, ça ne prend pas. Mais on verra le 9 juin.
Eh ben, bonne chance pour cette dernière ligne droite. On compte sur toi à fond. Et puis, bien sûr, hein, celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez aller voter, s'il vous plaît, ne votez pas extrême droite, ni trop à droite. Enfin bref, faites ce que vous voulez, mais surtout, surtout, faites en sorte de faire barrage, parce que là, c'est quand même très inquiétant ce qui est en train de se passer. Et comme vous pouvez l'entendre, malheureusement, ça ne se cantonne pas qu'à la France.
Complètement.
Merci beaucoup Sarah Schlitz, merci pour cet entretien. J'espère qu'on aura le plaisir de te retrouver à nouveau sur Popol. Pour celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas que vous pouvez faire un petit don à Popol Média pour nous soutenir. Popol est un média entièrement indépendant qui ne dépend que de vos dons. Vous pouvez faire un don défiscalisé à hauteur de 66% en vous rendant sur le site internet www.popol-media.com. Merci beaucoup et à bientôt.
Salut Léa.